Bonjour, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui dans nos studios Rémi Leloup. Bonjour à vous.
Bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Rémi Leloup, ingénieur du bois, en retraite depuis 8 ans. Et je continue dans le cadre de l'université ouverte à parler d'un péché mignon que j'ai toujours au fond de moi-même, c'est-à-dire le bois, les arbres. Et là, aujourd'hui, on peut parler justement des arbres sacrés, des forêts sacrées.
On entrera dans le vif du sujet après cette prochaine pause musicale.
J'avais le plus bel amandier du quartier. J'avais le plus bel amandier du quartier. Et pour la bouche gourmande des filles du monde entier, je faisais pousser des amandes, le beau, le joli métier.
Par exemple, en Chine, c'est le bois dressé qui se tenait au centre de l'empire du monde, hein. Il est recommandé par le parti, quand un Chinois construit, de planter au milieu de sa concession un ginkgo biloba, cet arbre aux mille vertus, qui existe depuis plus de 250 millions d'années et qui fut le seul survivant à Hiroshima et à Nagasaki. C'est le seul arbre qui a résisté donc à la bombe atomique.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre.
On peut dire que tous les arbres avaient une âme, ont une âme, et sont habités par des esprits.
Bien sûr, tous les arbres avaient une âme, ils étaient habités par des esprits dont ils formaient le corps. Aussi, on ne pouvait pas couper un arbre sans avoir prié ceux-ci de s'en retirer. Toujours, c'est toujours valable, surtout en Afrique, donc où j'ai quand même travaillé, les compagnies forestières, avant de rentrer en forêt pour couper des arbres, étaient obligées de tenir ce qu'on appelle des tenues de palabre. Vous avez Ronsard, grand poète français du XVIe, qui se fait l'écho de ses croyances dans son incantatoire et sublime élégie contre les bûcherons de la forêt de Gâtine. Il disait « Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessus la douce écorce ?» Et ainsi de suite. Donc, vous voyez déjà Ronsard, au XVIe siècle, se fait l'écho de ses croyances. C'est pas nouveau.
Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivent dessous la dure écorce? Combien de feu, de fer, de mort et de détresse mérites-tu, méchant, pour tuer des déesses? Adieu, vieille forêt. Adieu, tête sacrée. Que deviendra muet, écho sera sans voix.
Vous dites, c'est un arbre sacré. Donc, si je vais contre cet arbre sacré, qu'est-ce qui va arriver à ma famille, même si j'en ai pas la conviction? Mais il y a toujours une arrière-pensée. Il y a l'inconscient qui travaille, puisqu'on peut dire que dans chaque être humain, on réagit 90% à l'inconscient.
Elle dort au milieu des serpents. Sous la tonnelle, près des marais. Les yeux au-delà des diamants. Qu'elle a incrusté.
Au moment des funérailles, il y a toujours des rites, surtout en Afrique.
Très bien. Rémi Leloup, vous êtes venu nous parler des arbres sacrés. Je crois que l'on inaugure avec ceci une série d'émissions, puisqu'il ne s'agissait là que d'une partie, d'une conférence que vous avez donnée, et nous vous recevrons à nouveau pour développer sur ce sujet. Nous avons pu découvrir cette introduction aux arbres sacrés, voyager à travers le monde, à travers les origines du monde, les rites, et je vous en remercie.
Retenez votre souffle, retenez les nuages, retenez votre souffle, retenez la terre unie, retenez votre souffle. Retenez les nuages, retenez votre souffle, retenez les petits craquements, retenez votre souffle, retenez l'odeur des fleurs, 1, 2, 3, devenez cet arbre, 2, 3, vous êtes un arbre.
bien, nous revenons avec Rémi Leloup aujourd'hui encore. Bonjour à vous.
Oui, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui encore pour parler des arbres sacrés, des forêts sacrées.
Voilà, donc nous menons une série d'émissions avec vous-même sur ce thème des arbres sacrés et forêts sacrées. Nous étions donc la semaine dernière sur le thème des arbres protecteurs et lieux de culte après avoir brossé les origines donc de ces sacrements, de ces vénérations, et nous brossions le portrait des arbres protecteurs, des lieux de culte ou de superstition, quelque part en Haute-Saône, et puis dans la France, en Belgique. Nous voyagions et nous en arrivons à ce point aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que vous avez des lieux. On n'a peut-être pas encore parlé, vous savez, de ce lieu de Allouville-Belfausse en Seine-Maritime, où les gens viennent du monde entier pour prier Notre-Dame de la Paix. C'est l'une des deux chapelles de ce gros chêne qui fut consacré en 1608. Et ce gros chêne donc a deux chapelles à l'intérieur de son tronc. Donc celle qui est en bas, c'est Notre-Dame du chêne, c'est la Notre-Dame de la Paix. Et puis vous montez des escaliers tout autour, comme un escalier mais qui circule le long du tronc. Et on arrive donc à la grande chapelle qui est au-dessus. Et on vient du monde entier pour prier. Alors c'est sûr, ce chêne, il a subi bien sûr beaucoup de dégâts, parce qu'il y a eu la foudre, il y a eu des abeilles, il y a eu le capricorne. Mais on essaye de le conserver toujours en vie, et alors il subit toujours des soins constants, à la fois pour empêcher les branches de se détériorer, donc on l'a aubané, hein, puis on l'a protégé aussi contre tous ces xylophages, là, en particulier le capricorne, et puis d'autres insectes xylophages, et on empêche la dégradation de son tronc, car on l'a recouvert de tavaillons, vous savez, ce sont ces petites planchettes qui sont cliviées à la hache, ce sont des troncs d'épicéa, et qui sont tranchés comme des petites ardoises, et qu'on recouvre donc les troncs pour empêcher la dégradation. Voilà. Alors il y a aussi donc beaucoup d'autres arbres qui sont consacrés, hein. Donc on a au Japon, vous avez des arbres qui sont entourés de palissades avec des trous à l'intérieur de la palissade. Et les Japonais viennent pieds nus s'asseoir le long du tronc et mettre les pieds dans le tronc, dans les trous de cette palissade, pour se ressourcer, pour prendre l'énergie qui monte de la terre et qui, disons, la sève montante, hein, avec donc tous les oligos et les bancs, et qui vont jusque au sommet de l'arbre. Alors vous êtes deux ou trois autour de l'arbre, ou quatre ou cinq même. Et vous avez la même chose aussi, mais ça c'est au Vietnam. Là-bas on se ressource aussi par les pieds, on peut récupérer cette force du banyan, hein, donc, qui vient donc de la sève, hein, de la sève montante, et aussi de la sève descendante, parce qu'ils partent du principe que la sève descendante est chargée d'énergie, donc qui vient des feuilles, qui vient du ciel, hein, donc toute la photosynthèse a travaillé pour l'élaboration de cette sève. Et alors on vient se ressourcer aussi au pied de ce ficus, hein, c'est un ficus donc religiosia, et sous ce ficus il y a ce qu'on appelle un bar-restaurant. Alors voilà, on peut dire que l'homme, quand il vient là, ben, il se ressource des deux par les deux bouts.
Dans les arbres, pieds dans la terre, tête dans le ciel, vivant sur le plus haut d'entre eux, accroché à son tronc rugueux, je chevauche la bête centenaire en regardant les nuages passer. Jours entiers dans les arbres, à écouter le temps passer. Salama Toko, Salama, mes voisins sont des nains géants, émigrés des forêts du Rhin. Les autres, tout gris et tout noir, viennent des grands arbres du Congo, les grands vasiers. s'épuise contre les dieux anciens. Les petits font pour les calmer, en riant des cris d'oiseaux. Salam à Toko, salam à Toko, salam à Toko. Un vieux pygmée tout déplumé me prend la tête à deux mains et me chuchote en souriant. Sa vérité innocente, tu es bien plus petit que moi et bien plus grand que les géants. Libère-toi du désespoir, piétine les mirages de l'espoir. Vers le soir, les géants se calment en fumant des herbes magiques qui font les étoiles plus brillantes. Et moi, un peu plus mélancolique, une géante toujours enceinte, me prête son bâton phallique pour briser l'armure de la nuit et entrer dans le lit des rêves.
Demain, un avion migrateur tissera dans le ciel un sillage, les planches sur papier d'azur pour vous dessiner un message.
La Seine-Maritime jusqu'au Japon, nous avons fait un bond de géant et nous retrouvons donc dans des contrées un peu plus exotiques à nos yeux, du moins, et peut-être des rites qui sont différents.
Oui, alors disons que maintenant on peut voir les arbres qui étaient sacrés et qui étaient associés au destin des cités. Alors ils pouvaient être aussi directement liés au sort des individus. Alors si vous voulez, on peut voir quelques exemples d'arbres protecteurs et associés aux cités. Comme à Athènes, sur l'Acropole, eh bien croissait l'olivier planté par la déesse Athéna. Vous savez que Athéna était la déesse de la connaissance et de la guerre, et l'olivier était le symbole d'Athènes. Et il contribua grandement à l'éclat de la civilisation de cette ville qui gardait jalousement le secret de sa culture. Hein, c'était donc l'olivier vient d'Athènes et alors on le gardait mais alors précieusement. Alors vous avez comme souvenir sûrement, vous savez, cette colombe qui ramène à l'arche de Noé une branche d'olivier pour prouver à Noé que le déluge avait pris fin. Ce signe de réconciliation de Dieu avec les hommes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, mais de l'olivier fut tirée la croix du Christ qui allait renouveler le pacte de paix de la nouvelle alliance. Par Jésus, Dieu est venu renouveler l'alliance avec les hommes. Et depuis toujours d'ailleurs, les bacheliers à leur examen, c'est-à-dire avant les examens étaient oraux, hein, que ce soit chez les Grecs ou chez les Latins, et ils recevaient comme diplôme une couronne d'olivier. De même qu'à Olympie, les concurrents, tous ceux disons, qui participaient donc au marathon et autres portaient un rameau d'olivier et leur sécurité garantie durant tout le voyage. Quand vous regardez le drapeau des Nations Unies, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça symbolise la paix, c'est deux rameaux d'olivier qui figurent sur le drapeau des Nations Unies et qui sont comme une flamme montante de chaque côté. D'ailleurs, à Rome, la déesse Pacte était couronnée d'olivier. Et puis, souvenez-vous, le 21 juillet 1969, quand les Américains sont allés sur la Lune, eh bien, Neil Armstrong a déposé sur la Lune un rameau d'olivier en or en signe de paix pour l'avenir. Alors, on peut dire qu'il y a de nombreux arbres qui sont associés à des nations.
Moi, le premier qui me vient à l'idée, c'est le fameux cèdre du Liban, hein, qui figure donc sur le drapeau. Hein. Il est bon de rappeler que le cèdre était le bois le plus utilisé pour la fabrication des piliers, des échafaudages, des portes de temples, et surtout pour la sculpture des dieux. D'ailleurs, sa résine servait à embaumer, à parfumer les morts. C'était la première essence indispensable à un défunt. Parce que vous savez qu'il devait parcourir les 21 portes de l'au-delà. Alors donc, il était embaumé avec de la résine de cèdre. Il n'y a pas plus loin que chez nous, hein. Vous avez chez les Celtes, on conservait les têtes des personnages importants dans de la résine de cèdre. Chez les Assyriens, le cèdre était l'antiseptique par excellence. Il protégeait des démons. Aussi brûlait-il des écorces et des pines de cèdre. Au Japon, le cèdre bleu est comparable à l'arbre du Kirof. Vous vous rappelez cet arbre de Kirof où les gens viennent par quart entier et viennent passer trois fois sous les racines donc, du cèdre hein, pour avoir la bénédiction. Les femmes enceintes reviennent par trois fois hein, déposer une couche ou un bavoir. Une fois que donc les femmes ont accouché, elles sont venues sous le cèdre demander donc les bienfaits hein, aux dieux, parce que ça sert toujours d'antenne, d'intercepteur. Et donc, une fois que l'accouchement, que l'enfant était né, eh bien, les femmes venaient déposer un bavoir ou une couche ou autre chose donc, au pied du cèdre. D'ailleurs, on ne parle jamais donc des musulmans. Mais chez les musulmans, le cèdre, c'est l'arbre géant qui abrite le trône d'Allah. Et qui s'élève jusqu'au septième ciel. Rappelez-vous quand je vous parlais donc des yakouts hein, ou des chamans donc en Sibérie, eh bien ils montaient à la sixième branche hein, donc sur le bouleau. Hein, l'autre montait dans le mélèze, l'un montait dans le bouleau à la sixième branche à la lune argentée et ainsi et à la neuvième branche ils rentraient en contact avec les dieux. Eh bien là. Chez les musulmans, le cèdre, eh bien, pareil, s'élève jusqu'au ciel, et chaque aiguille porte le nom d'un musulman. Et la légende ou la tradition veut que quand une aiguille tombe, une aiguille de cèdre, eh bien, c'est un musulman qui meurt. Et c'est toujours, dans certaines religions, c'est toujours valable. Alors, dans ces arbres associés au destin des nations, vous avez l'araucaria, et qui est au Chili ce que le cèdre est au Liban. Hein. Alors c'est un arbre, donc, c'est le symbole du Chili. Comme vous avez l'érable du Canada, hein, donc vous avez sa feuille est d'ailleurs représentée sur le drapeau canadien, hein, fait partie de l'emblème. Donc c'est les Amérindiens qui ont quand même sauvé les premiers colons hein, grâce au sirop d'érable. Qui ont sauvé donc les premiers colons hein, du scorbut en faisant boire justement ce fameux sirop d'érable. On peut dire que les premiers colons qui sont arrivés au Québec, puisqu'on a parlé un jour comme ça entre nous du Québec, eh bien, s'il n'y avait pas eu les Amérindiens, il y aurait eu énormément de morts de la part des premiers colons. Hein. Vous avez aussi le figuier. Vous avez des fois... C'est du côté de Vitré, vous avez des arbres qui sont énormes, avec de nombreuses racines. Vous avez un figuier qui ressemble à une forêt. C'est pas un seul et unique arbre, mais c'est souvent un banyan hein, qui aurait à peu près 1001 racines hein, et qui forme autant de piliers. Il faut dire que ce fameux figuier à Rome, hein, eh bien, il poussait sur le forum. On l'appelait d'ailleurs le Romulaire. Et il faisait plus d'un hectare de couverture au sol. Hein, donc c'était quelque chose de remarquable. Alors on disait même que c'est lui qui avait abrité et ombragé l'enfance de Romulus et de Rémus. Et en 58, après Jésus-Christ, eh bien on a vu ce que ce figuier se desséchait. Ce qui parut de sinistre augure, dit Tacite. L'année suivante, ben, Néron, il tua sa mère Agrippine et il s'est livré à des cruautés, à des débauches sans fin qui a failli provoquer la crise et a failli faire succomber l'Empire romain. Heureusement que de nouveaux rameaux apparurent sur le vieux tronc du Romulaire, car il faut savoir que le Romulaire
figurer hein, sur le bas-relief du forum et sur les pièces de monnaie.
Alors donc, bah, autrement, vous avez d'autres arbres comme le marronnier, hein, parce qu'on dit que le marronnier, c'est la légende qui veut que ce marronnier est souvent planté à l'envers. Vous voyez ces marronniers qu'on va couper sur la grande place de Vesoul, parce qu'on trouve que certains tronçons creux qui risquent donc... par la foudre ou par dessèchement, de tomber sur les voitures. Alors, comme ces gros arbres risquent de s'effriter, alors ils vont tous s'abattre. Mais la légende veut que ces marronniers ont été plantés à l'envers par une sorcière. D'ailleurs, la tradition veut que ce fût le diable qui créa le marronnier, car son fruit ressemble au châtaignier. Alors, le châtaignier est un fruit de récolte qui a sauvé beaucoup de peuples, de peuplade de la famine avec ces châtaignes. Mais si vous voulez bien, on peut faire une petite pause et puis parler d'autres choses.
Un jour, le diable vint sur terre. Un jour, le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre. Ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre. Ça va. Des trains déraillent avec fracas, parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession, des confessions sans rémission. Ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète, l'honneur et même la sainteté. Ça va. Les états se mutent en cachette, en anonyme société. Ça va. Les grands s'arrachent les dollars venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations. Ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris. Ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris. Ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va, ça va.
Vous évoquiez le figuier dans la Rome antique, entre autres arbres. Et le figuier, vous l'évoquiez déjà lors du précédent épisode sur l'Égypte antique. Oui. Et donc c'est un arbre noble, pourrait-on dire?
Oui, on disait l'arbre, le sycomore, mais c'était en réalité un figuier sycomorus et qui donnait des figues. D'ailleurs, la dernière fois, je me souviens de vous avoir dit que le fruit du péché originel, on dit que c'est une pomme, mais moi je dis peut-être que c'est la figue, parce que c'est le premier fruit qui apparaît dans la Bible, et on parle souvent du figuier. Et naturellement, après, ça a été banni, puisque donc Judas s'est pendu à un figuier. Alors on a dit, allez, maintenant c'est maudit. Mais à l'origine, je pense que c'était le premier arbre du jardin d'Éden.
Dans ces arbres associés au destin des cités et des individus, nous en arrivons aux individus qui sont en relation directe avec les arbres, comme on l'expliquait l'épisode précédent.
Bien sûr. Vous savez, encore maintenant, on plante des arbres lors de la naissance d'un enfant. C'est le destin de ces jumeaux qui sont désormais communs, donc l'arbre et l'enfant. Il y a dans certaines régions, bon, peut-être en dehors de France, mais on dit que si l'arbre dépérit, l'homme est en danger. Alors aussi, prend-il grand soin de son arbre. Moi, je me souviens quand mes fils sont nés,
À chaque naissance de fils, j'ai planté des arbres. Puis vous avez encore la tradition, ce qu'on appelle la dot de Sylvie. Donc Sylvie, donc la déesse de la forêt. Eh bien, des gens, qui sont des personnes qui travaillent dans le bois, que ce soit dans la menuiserie ou même dans la foresterie, ou qui sont très proches de tout ce qui touche au bois, eh bien, on plante à la naissance d'une fille 1 hectare de peuplier. Ça s'appelle la dot de Sylvie parce qu'au bout de 20-25 ans, quand la fille se marie, à l'origine, c'est elle qui apportait la dot. Il faut savoir que quand une fille se mariait, elle apportait la dot. Et dans la corbeille de la dot, eh bien, il y avait l'hectare de peuplier. Et l'hectare de peuplier, c'était quand même des centaines de mètres cubes qui pouvaient permettre donc aux jeunes couples de mieux démarrer dans la vie. Il y avait aussi dans certaines régions qui étaient restées très traditionnalistes, eh bien, le lien entre un individu et un arbre déterminé ne s'établit que le jour où on le fait traverser, enfant bien sûr, dans l'arbre fendu pour le guérir, et le plus souvent de son rachitisme ou d'une hernie. Hein. Donc, on passait l'enfant par, bien sûr nu, hein, par 3 fois dans la fente au lever du soleil, au moment où l'énergie de l'arbre est la plus forte. Alors le malade puisait sa force, et puis le mal, eh bien, partait avec l'arbre. C'était l'arbre qui puisait son mal. Et après la cérémonie, eh bien, on rapprochait les bords de la fente que l'on colmatait avec de l'argile. Ainsi était créée une relation sympathique, durable. Et alors si l'arbre se cicatrisait, eh bien, on disait « Ah, ça y est, l'enfant est en train de guérir !» Mais par contre, si l'arbre restait ouvert, si la fente restait ouverte, eh bien, la maladie persistait. Et donc, on s'inquiétait. Et par contre, si l'arbre venait à mourir, alors la mort de l'enfant était certaine. Parce qu'il y a cette force de persuasion. Moi, j'ai vu ça chez certains peuples. Hein. Vous savez, il y a des enfants qui naissent avec un tabou. Je donne un exemple idiot. Hein. L'enfant n'aura pas le droit de mettre sa main droite sur son épaule gauche. Donc ça, il le sait, c'est son tabou. Et si il s'aperçoit, par malheur, qu'il a mis la main, effectivement, sur l'épaule gauche, eh bien, la persuasion est tellement forte qu'il sait qu'il va mourir, eh bien, il meurt, il se dessèche, et il meurt vraiment. La force de persuasion est très très forte. D'ailleurs, il faut savoir que vous avez l'arbre de Confucius, vous savez, ce philosophe. Eh bien, le gouverneur Toei déracine l'arbre de Confucius pour faire taire le philosophe. Car il pensait que sa harangue, sa force de parler, venait des puissances divines transmises par l'arbre. Donc, on l'a fait déraciner, ce fameux l'arbre Confucius. Donc, c'était son arbre protecteur. D'ailleurs, on avait la même chose, l'arbre de Diogène, le cynique, vous savez, de Corinthe. Ah, si tout le monde se souvient de ce philosophe grec, disons à peu près 400 ans avant Jésus-Christ, il méprisait les richesses et les conventions. Et il habitait dans un tonneau sous un arbre. Et un jour, il y a Alexandre, le grand Alexandre, hein, qui a conquis tout ce monde-là, était venu, il avait demandé à ses sbires, écoutez, moi, je veux que tout le monde soit là pour venir m'applaudir et m'écouter. Et Alexandre demande à un de ses grands surveillants, il dit, alors, tout le monde est là? Il dit, non, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un, comment ça? Oui, mais c'est un fou, hein? Il habite dans un tonneau, hein. D'ailleurs il se promène à midi avec une lampe tempête allumée, et puis vous lui demandez, qu'est-ce que tu cherches, Diogène? Je cherche un homme. Alors cet homme, bien sûr, c'est la vérité, il n'a jamais trouvé quelque chose. Alors donc Alexandre a été vraiment inquiet, il a voulu, après la cérémonie, il dit, bon, je vais aller voir cet homme-là. Et il a rencontré donc le fameux Diogène dans son tonneau. Et donc il est sorti de son tonneau, il s'est mis sous son arbre. Et donc, Alexandre lui a dit, il lui a parlé, ils sont venus à parler philosophie et tout, et à la fin, Alexandre a été vraiment subjugué par cet homme, par Diogène. Il dit, écoute, moi, je vais te donner tout ce que tu veux. Écoute, demande-moi tout ce que tu veux, je te l'accorde. Alors, il lui répond, ôte-toi de mon soleil. Alors, vous voyez, donc, il y a pas mal de choses qui ont beaucoup de relations. Hein.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille, comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris, comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. D'honneur posthume, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes bras.
La silhouette se forme sur le papier. Les branches sont rentrées largement de part et d'autre.
Ouais. Trouver l'arbre à dessiner est long. En tout cas, le contact préalable est nécessaire. Se promener à la surface de l'arbre comme marcher sur les vagues.
On a une sensation très particulière quand on grimpe dedans. Tout le temps de la montée, on est dans l'ombre, dans la fraîcheur de l'arbre, puisque un arbre comme ça, ça maintient un microclimat. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'un arbre, ce sont des rivières à la verticale qui créent des nuages. Oui. C'est qu'un arbre de taille moyenne, pas ce gros cèdre, mais juste un arbre tout à fait moyen, ça évapore 500 litres d'eau par jour par transpiration. C'est-à-dire qu'en période de canicule, et surtout à Paris, c'est très important, et là, cette évaporation diminue la température jusqu'à 20% aussi dans son environnement direct. C'est comme un brumisateur, en fait. Donc là, quand on monte, on est vraiment dans une atmosphère climatisée.
Divinisé, donc est né tout naturellement la forêt sacrée. Alors, des vestiges de ces bois sacrés existent encore en Inde, en Chine, en Corée, au Japon et surtout en Afrique. Alors, si vous voulez, on peut parler un petit peu de ces forêts sacrées, lieux de bénédiction, de protection, d'initiation, de culte, dans différents pays.
Avant d'évoquer ces forêts, vous parlez de liens entre les choses, et je voulais savoir si vous aviez déjà fait un rapprochement entre ce qui est du domaine de la plante, de l'arbre, et du domaine du minéral et de la pierre, à savoir la tradition par laquelle on fait passer un nouveau-né entre les branches, entre les racines,
oui,
d'un arbre, me fait penser à la pierre percée d'Arrow, ce trou dans la pierre,
oui,
qui a priori devait également avoir ce rôle de passer un être.
Les enfants, bien sûr, oui, au moment de la naissance, à travers ce trou. Hein, parce que regardez, l'orientation est toujours bien orientée. Hein, voilà. Donc ce sont des cultes druidiques. Hein, donc c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était fréquent et c'était vraiment de bon ton de pratiquer ce genre de culte.
On imagine, voilà, ces fluides, ces liens entre les différents éléments que constitue la Terre.
Ben ouais, bien sûr, hein, voilà. Donc, à l'heure actuelle, vous avez encore des gens qui font circuler leur eau avant de boire sur des minéraux pour les charger, hein, de cristaux et puis d'énergie, hein, avant de boire. C'est sûr, c'est toujours valable. Hein. Alors voyons maintenant, voyez donc, j'ai une histoire à raconter, surtout c'est en Corée. J'ai une image où on voit un couple de futurs mariés à l'orée d'une forêt sacrée. Alors, en Corée, il y a une tradition qui veut, avant de se marier, il y a le marié qui fait un simulacre de rat, hein, et il prend sa future mariée, sa future femme, et il l'emmène dans une jungle, dans une pirogue ou tout ce que vous voulez, dans un bateau, et ils vont là sur une île, hein, qui est où, ce qu'on appelle le lieu sacré. Alors, il y a bien sûr, il y a des palmiers, il y a des arbres, hein, et donc il vient dans ce lieu magique pour recevoir la bénédiction des dieux avant de pratiquer l'union sacrée avec donc les maîtres de cérémonie, hein, avant d'être consacré pour la vie, hein. Alors ils arrivent en pirogue et on peut dire que c'est sous ces arbres sacrés qu'ils s'unissent pour la vie. Donc c'est là où ils se prêtent serment, fidélité, mais c'est pas devant les hommes, c'est devant justement les arbres sacrés. D'ailleurs, en Afrique noire, subsaharienne, je vous ai peut-être dit, tous les villages ont un arbre sacré. C'est le lieu de réunion dans ces forêts sacrées, surtout, c'est la réunion des initiés. Donc les vieux viennent et c'est là qu'ils pratiquent un petit peu. Bon, on dit, ah, c'est la sorcellerie et tout. Mais disons qu'il y a des rites, hein, c'est là où les enfants, on les circoncis, hein, c'est là où on va d'abord les réunir avant la circoncision, on va les initier, disons, à la vie, hein, c'est une sorte de, disons, pas de catéchisme, si vous voulez, à notre méthode chrétienne, mais on va les initier, on va leur apprendre, donc, des choses que enfants ils ne connaissent pas, pour passer de l'âge enfant à l'adulte. Donc c'est là où les filles, certaines filles sont excisées, et mais c'est aussi d'autres, c'est surtout là où les hommes sont circoncis. Hein. Et alors là, donc, on peut dire que dans certaines tribus, en particulier chez les Yoruba, la forêt sacrée est une représentation vivante du cosmos. Hein. D'ailleurs, là où ils font leur sacrifice, disons, hein, là où ils vont couper la tête d'un poulet, on va faire des prières particulières, des cérémonies particulières, des danses et tout sacrées. Donc c'est souvent dans une île, dans un territoire sacré, dans une rivière sacrée, hein, tout le site est sacré, donc tout est à bout, hein, et c'est là où on arrive à avoir une force extraordinaire. Alors du coup, vous avez d'ailleurs au Bénin, hein, vous avez une forêt sacrée. C'est là où sont nés les rites vaudous, hein, donc, qui ont émigré aux Antilles, aux Caraïbes, partout, là, même en Amérique latine. Alors c'est vrai que ces arbres sacrés, vous les voyez à l'entrée d'une forêt sacrée de Paxeloko au Bénin, hein, parce que c'est là que l'Iroquois, hein, on dit pas Seloko, mais c'est souvent l'Iroquois, hein, c'est là qu'il protège l'entrée du parc sacré. Hein, et vous avez d'ailleurs des fétiches qui sont représentés. Hein, donc vous avez le génie qui jette du sort, le Tchakatu, hein, c'est un personnage avec en fer, hein, avec des clous, c'est lui qui reçoit donc tous vos mots, toutes vos prières, hein, et qui retransmet après donc au monde de la forêt, et les arbres servent d'antenne pour les transmettre aux dieux du ciel. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que dans les forêts sacrées en Afrique, C'est là où se réunissent tous les sages, hein, les sorciers, les initiés. Hein. Alors, on peut dire que c'est là où se passe, disons, le passage hein, de l'enfance, de l'âge adulte, hein, de l'enfance à l'âge adulte. Et ça dure plusieurs jours. D'ailleurs, dans certaines régions, hein, il y a la chambre d'initiation qui est au milieu de cette clairière, entourée de grands arbres, hein, car ici, garçons et filles sont initiés à l'amour par leurs aînés, dans un dortoir mixte au milieu de la clairière et des forêts sacrées. D'ailleurs, vous avez des statuettes, hein, vous avez, rappelez-vous, ce que je disais, tous les arbres avaient une âme. Ils étaient habités par des esprits dont ils formaient le corps. Et donc, par exemple, chez les Dogons, les statuettes, le simple fait d'être sculpté par un artiste Dogon, disons, artiste un peu sorcier quand même, dans un arbre sacré dans la falaise de Bandiagara, confère aux morceaux de ce bois, de ces statuettes, la possibilité d'entrer en relation avec les génies et les esprits. Et donc ces gens de ces Dogons, hein, d'ailleurs en ce moment, ils souffrent parce qu'il y a eu quelques exactions commises au Mali, alors il y a beaucoup moins de visiteurs, mais il y a 3-4 ans, c'était des centaines de milliers de personnes qui allaient au pied de cette falaise. Et on va vraiment voir ce peuple qui est resté un peu comme il était il y a 1000 ans, quoi. Ouais. Exemple de forêt sacrée qui est au Mexique. Alors vous voyez, on peut dire que c'est des prières et des sacrifices offerts au dieu Tioga. C'est un dieu des anciens et ça se passe dans la Sierra Madre del Sur. Alors il faut savoir que vers 3 heures du matin, en pleine nuit noire, emmitouflés dans leur poncho de laine lourde, hein, de ces grosses, vous savez, genre grosses couvertures de poncho, vous voyez. Hein. Alors les ormes sortent en silence de leur masure
et s'élance sur les pentes de la montagne qui domine le village. Alors chacun porte un fardeau. Alors ce soit des poules, des dindes, et surtout des bouteilles d'alcool. Et quand l'aube pointe, eh bien, ils doivent arriver au sommet de cette montagne, qui est une forêt sacrée dans la Sierra Madre del Sur, c'est dans dans l'état mexicain d'Oaxaca, hein. Donc c'est entre Dieu d'accorder à ses fils une bonne récolte. Alors comme ils ont eu là, c'est la prière. Alors ils sont là, les bras en croix, les uns enchevêtés les uns derrière les autres, les bras en croix, sur des monticules au milieu de ces arbres, hein. Et ces arbres, bien sûr, sont fouettés par le vent de la Sierra, et les hommes parlent au Dieu et lui adressent remerciements et suppliques. Et c'est juste après ces suppliques qu'il continue à boire, mais alors beaucoup, car s'enivrer fait partie du rituel de la cérémonie. Alors c'est à la fois un acte de vie, une offrande, une autre manière de rendre hommage au Dieu. Alors inutile de vous dire que la descente, après, elle est pénible et périlleuse. Alors, ils titubent, chacun rentre chez soi, et comme ce sont tous des musiciens d'une banda, c'est-à-dire d'une fanfare, eh bien le soir, quand ils se réunissent, c'est une cacophonie incroyable, parce que c'est de la musique, parce qu'ils sont très musiciens, mais alors c'est du n'importe quoi. Mais on arrive à avoir des choses formidables, car c'est la manière de jouer d'un instrument qui compte dans leur échelle des valeurs sociales. Car les meilleurs musiciens sont les plus dignes de respect. Rappelez-vous, la musique remède contre la brume des âmes. Eh bien, là-bas, c'est valable. Alors donc, ces gens-là, eh bien, ont une façon de prier qui est à part. D'ailleurs, il faut savoir que au Tibet, l'art de charger les yaks, voilà, je cherchais le mot, les yaks, eh bien, c'est le dieu Balkuna, le dieu de la forêt tibétaine, qui a appris aux hommes à charger les animaux pour le transport de ce fameux sel, donc qui changea le mode de vie des hommes. Donc, ils transportent du sel des grands lacs du nord contre le grain des fertiles vallées du sud. Et donc, on peut dire que c'est à travers ces forêts de 5000 mètres donc qu'ils vénèrent et qu'ils traversent encore avec leur yak et qui sont toujours en admiration devant ces grands arbres. D'ailleurs, au Japon, vous avez les Yamabushi, ça veut dire ceux qui couchent dans la montagne, et qui cheminent sur la cime boisée afin de se purifier et d'acquérir des pouvoirs de guérison et de divination. Leur lieu de culte, en 2012, reste toujours valable, la forêt. Rappelez-vous ce que vous avez dit la dernière fois, les premiers lieux de culte étaient la forêt. Donc ces forêts qui deviennent après des cathédrales, des piliers. D'ailleurs, les cathédrales ont été une imitation de ces forêts, vous voyez, comme une forêt de bambou qui se... Bambou, c'est pas des arbres, mais disons, quand vous voyez en arc de cercle, eh bien, c'est ces arbres qui qui viennent se joindre au bout, on voit comme un arc, eh bien, c'était ça. Alors, voilà. Alors donc... Je vous parlais donc, c'est les Yamabushi. Alors, ils soufflent dans une conque dont le son incarne la voix de Bouddha. C'est pour éloigner les forces maléfiques, donc au milieu de ces arbres. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les bois sacrés qui donnent naissance au temple, donc dont les colonnes furent d'abord des arbres. Comme je vous le disais tout à l'heure aussi, donc en Afrique, les arbres sacrés, les forêts sacrées, ce sont les lieux de culte. Et dans l'église chrétienne, donc on évoque encore donc ces lieux de culte par l'alignement de ces piliers dans les cathédrales ou les églises, d'ailleurs par la pénombre qui y règne, cette lumière tamisée et colorée de ces différents vitraux. Quand vous voyez certains bouquets de palmiers, donc le palmier des Jacobins dans la nef de l'église des Jacobins à Toulouse, qui date du 12e et du 14e siècle, eh bien vous voyez que c'est l'image même de ces végétaux. Et puis vous avez aussi donc Charles Baudelaire qui disait « Grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales ». Vous voyez, donc il n'y a pas que moi qui vous dis que ces forêts ce sont des cathédrales. Donc c'est...
« Grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales. Vous hurlez comme l'orgue. Et dans nos cœurs maudits, chambres d'éternel deuil où vibrent de vieux râles, répondent les échos de vos déprofondis. Je te hais, océan, tes bons et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui. Ce rire amer de l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes, je l'entends dans le rire énorme de la mer. Comme tu me plairais, ô nuit, sans ces étoiles dont la lumière parle un langage connu, car je cherche le vide et le noir et le nu. Mais les ténèbres sont elles-mêmes d'étoiles où vivent, jaillissant de mon œil par milliers, des êtres disparus au regard familier.
De Kumano, vous avez des somptueuses bambouseraies hein, avec ces lumières tamisées, donc qui sont comparables à des cathédrales. Comme vous avez aussi donc dans certaines régions désertiques, vous avez certains musulmans qui ont fait des œuvres architecturaux hein, avec des piliers comme des palmiers, avec des gros palmiers. Hein. Donc, d'ailleurs, vous avez l'escalier à vis dit du jardinier à l'hôtel Chambellan à Dijon, qui est pas loin de chez nous, hein, ce qui est une représentation végétale hein, de ces fameux palmiers. Ça peut être aussi, vous voyez, donc l'arbre, comme on voit ici, donc un lieu de culte, mais aussi un lieu de méditation. Vous avez les cisterciens de Melleray qui ne méditent pas dans un cloître, mais dans une allée d'arbres qui évoque les piliers, le calme, la tranquillité, surtout le recueillement, comme dans une chapelle, ou comme au lieu de se promener dans un cloître, eh bien on se promène sous ces arbres qui sont plusieurs fois centenaires. Moi j'ai même vu, donc c'est un adepte du Kung Fu, qui est un étudiant chinois, qui s'accroche tête en bas sur un arbre sacré, et qui prie, donc la tête en bas, les pieds accrochés à une branche, en disant, voilà, avec mes pensées, je refais le monde. Voilà, donc c'est comme ça que... Alors, bien sûr, il y a beaucoup de croyances qui voyaient les arbres refuges des arbres des morts. Hein. Il faut savoir qu'en Corée, les esprits désincarnés se posaient sous forme d'oiseaux sur les branches des fameux sycomores sacrés. Toujours ce fameux sycomore qui revient. Hein. Hein, donc, nous, on a parlé du fameux figuier sycomorus, et eux, les Coréens, ils parlent du fameux sycomore sacré. Car la déesse sycomore, hein, eh bien, qu'ils invoquent, eh bien, pouvait leur apporter réconfort, de l'eau et le pain de bienvenue. Mais aussi, pouvait aussi apporter la mort, parce que cette déesse sycomore était à double sens. Hein, donc, si elle ne répondait pas à vos avances, à vos désirs, à vos suppliques, eh bien, elle pouvait vous apporter désolation, alors bien sûr, pour un homme, c'était d'être stérile ou impuissant. Pour une femme, bien sûr, c'est autre chose. Et puis, on la portait d'amour. Hein. Car, on disait, les esprits désincarnés se posaient sur des troncs. Alors, quand vous voyez dans certaines régions où on a cassé la forêt et que cette forêt est devenue des chicots, parce que vous savez qu'un arbre de 30 ou 40 cm de diamètre, il y faut à peu près 250 à 300 litres d'eau par jour pour que la sève circule. Il puise donc au fond de la terre, par ses racines, donc les éléments, les minéraux et tout qu'il faut pour vivre, transmet par photosynthèse donc toute cette sève au sommet de ses feuilles, et en échange partout, en redescendant aussi, sont rechargés donc d'énergie, hein, et il faut à peu près 250 litres d'eau par jour. Alors quand vous avez des forêts entières qui ont été dévastées et tout, alors c'est la catastrophe. Hein, c'est le déluge partout, c'est de l'eau dormante, hein, donc c'est de l'eau qui tue au lieu de l'eau de vie. Voilà. D'ailleurs, on disait, les esprits désincarnés sortaient du refuge des âmes, des morts, et se posaient sur des vieux troncs. Et dans certaines régions, comme en Bretagne, on pensait que les âmes en peine, les âmes qui étaient au purgatoire, eh bien, purger leur camp de tornade quand ça souffle. Hein, donc l'arbre est ballotté et tout. Alors comme l'arbre, c'est quand même un ensemble de cernes vivants, hein, le tronc. Hein. Alors il y avait donc ça ballottait et on entendait des arbres geigner. Alors eh bien c'est là où on faisait dire des messes parce qu'il fallait donc atténuer donc l'esprit des morts. Il fallait les apaiser. Hein, voilà, donc, et c'est toujours valable dans certaines régions en Bretagne. D'ailleurs, c'est-à-dire, on disait, on entendait dans la nuit marcher les arbres. C'est pour ça que dans certaines régions, comme en Bretagne, eh bien, on a grand soin de choisir les arbres du cimetière. Dans le Kent, en Grande-Bretagne, dans le Pays de Galles, en Grande-Bretagne et tout. Donc, la tradition veut que ce soit des ifs qu'on plante dans les cimetières, hein, parce que c'est dans les ifs qui ont des grandes racines et ils viennent soi-disant puiser dans la tête des morts, hein, puisque c'est ça que on veut dire. Alors, le lif est un élément du paysage essentiel dans tous les cimetières de Normandie, de Bretagne et d'Angleterre. Hein. Donc ce fameux if, le taxus baccata, hein, on dit arbre de vie, arbre de mort. Donc taxus veut dire arc et baccata fait avec des perles. Il faut savoir que le lif est quand même un arbre mortel, parce que tous les organes de la plante contiennent un alcaloïde très toxique, qu'on appelle la taxine. Et on sert de sel contenu dans son écorce, qui est ce qu'on appelle le taxol, hein, qu'on s'en sert pour lutter contre le cancer. Parce que le taxol a un pouvoir reconnu maintenant médicalement, hein, et empêche les cellules cancéreuses de se développer. Mais c'est pour ça qu'on dit arbre de vie, arbre de mort. Arbre de vie parce qu'il guérit, mais arbre de mort, par exemple les aiguilles de l'if, si un cheval ou un âne broute ses aiguilles, il est sûr de mourir. Hein, d'ailleurs, même nous, l'écorce, les aiguilles, c'est vraiment quelque chose de très toxique. Il n'y a que la rille, son fruit qui est un peu rosé, la rouge, hein, mais c'est la pulpe, parce que la graine contient vraiment un poison. Comment les Celtes s'en servaient, ils pilaient la graine, hein, et ils servaient au bout des flèches pour lutter contre les Anglais. D'ailleurs, tous nos beaux ifs sont partis en Angleterre, ça servait à faire des arcs. D'ailleurs, Jules César et Strabon rapportent que les Gaulois écrasaient les graines de la rille pour empoisonner leurs flèches et lutter contre eux, et beaucoup de gens meuraient à cause de ça. Il faut savoir aussi qu'en Bretagne, l'if est le gardien du Melbeniguet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Melbeniguet ? On peut dire que c'est l'ancêtre de l'euthanasie. C'est un gros galet. Et l'if était le gardien de Melbeniguet. Vous savez, il faut savoir qu'au moment où en Bretagne, on peut dire que c'est à partir de l'arrivée de Gaulle au pouvoir que la Bretagne, a pu se développer et a de sortir donc d'une province, moi je dirais, je suis breton, donc je peux vous le dire, un peu arriérée à une province maison moderne. Et donc, moi je me souviens encore du côté de Saint-Malo et autres, les gens qui partaient, les Terre-Neuvas qui partaient, eh bien ils partaient pour des mois et des mois, et quand ils laissaient leurs femmes et leurs 10-15 gosses à la maison, qui avaient un grand-père et une grand-mère qui étaient à moitié vivantes, et qu'il y en a un qui venait à faire une attaque, supposé que le grand-père, hein, venait faire un AVC et qui devenait un vrai légume, eh bien c'était les notables, oui, les anciens du hameau ou du village, hein, qui se réunissaient et qui prenaient la décision d'aller chercher ce Melbeniguet, c'est-à-dire ce gros galet de granit, et en mettre un coup définitif sur la fontanelle du vieux légume. Voilà. Parce qu'il ne fallait pas laisser une bouche à nourrir inutilement, parce qu'un vieux, un légume, un impotent, hein, un mort vivant, eh bien, prenait la place de 400 personnes, parce qu'il n'y a pas les sangs l'occuper, le laver, le tout. Donc, c'était pas possible. Donc, on peut dire que c'est l'ancêtre de l'euthanasie. Et c'était valable jusqu'au début du XXe siècle. Hein. Alors donc, il y a aussi ces fameux ifs servaient de cercueil, car le bois d'if est imputrescible. Et puis d'ailleurs, on peut dire qu'une fois teinté, il ressemble étrangement à l'ébène. Alors c'est pour ça que ça faisait des monuments formidables. Et puis il faut dire que l'if est toujours un arbre toujours vert. D'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a gardé dans les cimetières. Hein. Alors en Méditerranée, ben, c'est plus l'if, hein, mais c'est le cyprès. qui est le symbole du deuil dès l'époque crétoise. Alors bien sûr, sa forme le fait s'élever vers le ciel telle une flamme qui ne s'éteindra jamais. Donc c'est, vous voyez, comme la flamme d'une bougie, ça a exactement la même forme. Hein, donc c'est une prière. Hein, et puis, on peut dire que c'est un arbre qui représente l'immortalité, parce que, hein, je vous dis, ça s'élève comme le ciel, comme une pointe, hein, avec ses aiguilles toujours persistantes, hein, c'est ce symbole. Hein. Donc, vous avez, ces cyprès. Voilà, donc si vous voulez aussi, il faut savoir que chez les Japonais, hein, vous avez le Cryptomeria japonica qui pousse, et vous avez des urnes funéraires. Et alors vous avez comme des cimetières, vous avez des... On peut dire comme vous avez des pions sur un jeu d'échecs, eh bien ce sont des urnes funéraires, et entre ces pions, eh bien, vous avez des arbres qui poussent, c'est le fameux donc Cryptomeria japonica. Alors, je vous dis, vous avez un arbre qui est vraiment le symbole parfait, hein, de la longévité et du sacré, c'est le cyprès de Santa Maria del Tul au Mexique, hein, qui est le plus gros du monde. Il fait 42 mètres de circonférence. Il a un système d'irrigation adapté qui a été spécialement conçu pour lui permettre donc de puiser l'eau dont il a besoin, et il a du personnel jour et nuit à son service. Alors bien sûr, ces 42 mètres de circonférence, c'est quelque chose de monumental. On vient du monde entier pour l'admirer, à la fois l'admirer et pour prier aussi à ses côtés.
Donc nous voilà complets sur cette partie avec ces arbres et la relation mort, et nous nous retrouverons pour de prochaines aventures incessamment sous peu lors d'une prochaine émission.